France Musique.
C'est l'heure de retrouver notre invité.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Olivera Guyon.
Notre invité, le pianiste Selim Mazari. Bonjour Selim.
Bonjour.
Bonne année.
Vous aussi, meilleurs vœux.
Merci. Vous sortez dans quelques jours sur le label Mirare votre premier disque seul consacré à Beethoven, dédié à quelques-unes de ses variations, quatre séries de variations dans lesquelles s'exprime l'évolution de la pensée, du langage révolutionnaire de Beethoven, on va en parler. Et puis vous serez jeudi prochain, le 16 janvier, à la Fondation Vuitton à Paris et le 18 à Grenoble pour la Folle Nuit à Vienne. Beethoven composera la grande partie de vos programmes, bien sûr. À quel âge avez-vous souvenir d'avoir découvert Beethoven, Selim Mazari?
Très tôt, je crois. J'ai eu de la chance d'avoir des parents, même s'ils n'étaient pas musiciens, assez mélomanes. Et je crois me souvenir, quand j'étais petit, demander à ma grand-mère quel était son compositeur préféré. Ce qui est très drôle, c'est que ma grand-mère était sourde. Et elle me disait...
Voilà, un point commun.
Voilà, ce qui, de base, avait... Voilà, j'ai toujours eu une petite préférence pour ce compositeur assez enfant. J'ai eu beaucoup de chance d'entendre, en fait, les classiques viennois très tôt. Mm-hmm. Je pense vraiment vers... 5-6 ans, je devais en avoir en tête.
L'année de l'anniversaire des 250 ans de Beethoven a commencé, donc 2020. Pourquoi cette belle idée de proposer entre autres les variations sur le ballet Das Waldmädchen, assez peu connu en France en fait?
Oui, c'est d'ailleurs ainsi que j'ai découvert grâce à mon professeur à Vienne, Avo Kujundjian, Avedis Kujundjian. Clairement pas les premières variations auxquelles on pense lorsqu'on pense à Beethoven, en général c'est les Diabelli. Le fameux thème que Diabelli a envoyé à tous les compositeurs, et Beethoven a répondu avec une heure de variation. Malgré tout, dans les œuvres de jeunesse, ou même dans des œuvres non référencées, qui n'ont pas été donc dans son catalogue d'œuvres, il y a des petits bijoux comme ces Waldmädchen, qui sont issus d'un ballet d'un compositeur de Vranitsky, s'appelle. J'ai d'ailleurs pas réussi à retrouver la partition originale de ce thème. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est un thème qui est irrégulier. Donc en fait, c'est un thème qui est raté sur le papier, je précise. En fait, les carrures habituelles sont basées sur 4 mesures, et celui-ci, 4 plus 4, et celui-ci c'est 4 plus 5. Donc ce qui est génial, c'est que Beethoven transcende ce côté boiteux, ce côté irrégulier.
Un joli réveil avec Beethoven, 8h35 sur France Musique. Le thème, suivi de quelques-unes des variations sur le ballet Das Waldmädchen, WOO 71, les quatre premières variations de Beethoven, une œuvre de 1796 d'après le ballet La fille de la forêt de Paul Wranitzky. Beethoven avait 26 ans et là nous l'entendions interprété par mon invité ce matin, Selim Mazari. Selim Mazari, c'est plus des variations dans l'harmonie, non, dans la couleur plutôt que dans le thème lui-même?
Je dirais surtout que c'est vraiment un travail sur les textures différentes. Vous pouvez voir au fur et à mesure des variations, effectivement on perd pas le matériau mélodique, on entend toujours le thème do, mi, ré, mi, do, ça on l'entend toujours en tête, mais c'est une sorte de travail vraiment sur les textures, comme si c'était une sorte de patchwork sonore qui travaille. On n'est pas face à un Beethoven encore très audacieux, comme on pourra le voir dans des variations plus tardives, où il nous faut vraiment un instant particulier, vraiment un instant d'analyse pour vraiment retrouver un peu le thème. Et pour le thème est quand même pas si bien caché.
Et Beethoven, donc, il a écrit beaucoup de variations. Le principe de variation, d'ailleurs, est assez fondateur dans une grande partie de son œuvre en général, pas juste pour le piano. Là, il va quand même un peu plus loin. Et on sent que ces variations-là, effectivement, j'ai une question. Est-ce que vous devez comprendre ce qu'il a voulu dire avant de les jouer, de les interpréter? Vous avez besoin de savoir comment Beethoven l'a construit?
Ouais, c'est exactement ma manière d'approcher le travail. Je le pense vraiment, il faut savoir que c'est vraiment la table de l'artisan, ces variations, chez Beethoven. Il y a déjà des procédés, des éléments qu'il utilisera dans ses sonates. C'est d'ailleurs ça qui m'a intéressé finalement, dans le fait d'enregistrer des variations. Je me suis dit, en 2020, on va forcément entendre les 32 sonates à l'envers, à l'endroit. Et d'ailleurs, je vais en jouer beaucoup.
Et à l'auditorium de la radio, entre autres.
Voilà, le 22 mars. Et du coup, je me suis dit, avant de jouer des sonates, voyons presque le travail préparatoire, le travail en laboratoire. Comment Beethoven développe un thème? Comment Beethoven travaille sur le rythme, sur la mélodie, travaille sur la structure? Et c'est génial. Quelles que soient les variations, quel que soit le cycle, Beethoven nous montre son génie, son inventivité, pas un génie mozartien facile qui découle quelque chose qui est naturel, comme si on sifflait une mélodie de manière très facile, mais plutôt vraiment le vrai développement intellectuel, la pensée vraiment des lumières, le raisonnement, la manière de penser assez kantienne, de vraiment on évolue peu à peu sur certaines choses, tout simplement sur un matériau sonore.
Selim Mazari, donc votre disque consacré aux variations à quatre cycles de variations de Beethoven, sort dans quelques jours sur le label Mirare. Vous allez jouer entre autres ces variations Das Waldmädchen prochainement, le 16 janvier à la Fondation Vuitton.
Tout à fait, je vais d'ailleurs ouvrir le récital avec ces variations qui pour moi sont...
Un bijou.
Oui, c'est un vrai petit bijou. Alors attention, ça a évidemment l'apparente simplicité pareil comme pour les sonates de Mozart, vous savez, ce Schnabel disait qu'elles sont trop faciles pour les enfants, trop difficiles pour les adultes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça permet aussi, je pense, à l'auditeur de se rendre compte du chemin parcouru quand on voit les opus 34 et les opus 35, qui sont pas si longtemps que ça.
Que vous avez enregistré parlant, également.
Et que j'ai enregistré, voilà.
Selim Mazari, vous avez commencé le piano très jeune, vers l'âge de 5 ans, on pourrait dire un peu grâce à votre voisine.
C'est ça.
Qui était élève elle-même de Brigitte Angerer, qui est devenue après votre élève. Vous l'avez connue à l'âge de 10 ans?
Tout à fait. J'ai fait l'Académie de Nice en 2003 avec elle.
Et après, vous avez intégré sa classe au CNSM?
Voilà.
À partir de 2008?
C'est ça. Donc, c'est une relation évidemment qui a été très importante. Brigitte Angerer elle a enregistré un CD Beethoven d'ailleurs, que j'aime beaucoup, avec les variations sur les ruines d'Athènes, avec l'opus 110. Remarquable. Mais on ne pourrait pas nécessairement penser en premier à Brigitte Angerer lorsqu'on pense Beethoven. Et Dieu sait pourtant qu'elle adorait ce compositeur et qu'elle le faisait très très bien travailler.
Elle vous faisait travailler?
Oui, on a travaillé ensemble. Je pense que j'ai un souvenir particulier pour la sonate opus 90, qui est une des premières, des dernières sonates, si on peut dire, et qui est une sonate redoutable, très courte, 12 minutes. Deuxième mouvement schubertien, premier mouvement quelque chose de très particulier, c'est un vrai ovni cette sonate, et on l'a travaillée ensemble, et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que sur cette partition-là, à l'époque elle m'avait dit, ah bah si t'aimes Beethoven, j'ai un ami qui est professeur à Vienne, qui s'appelle Avedis Kuyumjian, Et d'ailleurs, je l'avais mal noté. J'avais tapé Koo Yum Jan. Elle m'a dit, mais il est pas coréen, il est arménien.
Et c'est mon professeur actuel,
exactement. Ça a été mon professeur ces dernières années.
On va vous écouter Selim Mazari à 8h40 sur France Musique avec deux flûtistes, Juliette Hurel et Joséphine Olek. Un enregistrement de 2012 ici dans l'Allegretto con moto de l'opus 25 de Doppler. Selim Mazari sur France Musique. Thank you. 18h45 sur France Musique, le mouvement Allegretto con moto de l'Andante et Rondo opus 25 de Franz Doppler pour deux flûtes traversières et piano, les flûtes traversières de Joséphine Olek et Juliette Hurel et le piano de Selim Mazari, mon invité ce matin. Invité parce que il sort très prochainement un disque consacré aux variations de Beethoven. Selim Mazari, petite question, qu'est-ce qui nourrit votre art ?
Beaucoup de choses. Je devrais être plus concentré d'ailleurs sur mon art. Non, j'adore faire plein de choses différentes, diverses et variées. J'ai besoin de respirer, de voir plein d'autres choses. Je suis un très grand fan d'opéra, donc j'y vais beaucoup trop souvent. Beaucoup, beaucoup trop souvent.
Bon, on peut pas aller trop à l'opéra. Vous y allez partout dans le monde ? Vous essayez d'aller dans plusieurs salles ?
Principalement à Vienne. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion. Enfin, disons que quand je voyage pas, c'est parce que je prépare mes concerts, donc je préfère plutôt rester. Mais c'est vrai que principalement c'est à Vienne ou à Paris que j'y vais.
Qu'est-ce que vous avez vu récemment que vous avez tant aimé ?
C'est-à-dire que depuis septembre, je suis allé à peu près 25 fois, je pense. Donc, donc j'y vais beaucoup trop souvent. Voilà, je devrais travailler mon piano plus souvent.
Oui, c'est vrai que vu votre disque, je pense que vous ne travaillez pas beaucoup. Vous avez vu quoi récemment qui vous a plu ?
Ah bah récemment, je suis allé voir Fledermaus pour le réveillon. Donc c'est une tradition à Vienne de le faire. Donc au deuxième acte de La Chauve-souris, ils font venir un guest. Là, c'était Jonas Kaufmann. Donc c'était très sympa. Et puis c'est un opéra très réussi. Je dois admettre, d'ailleurs, c'est la première fois que je l'entendais. Et non, c'était assez génial.
En 2018, vous êtes nommé dans la catégorie Révélation soliste instrumentale, vu que vous ne travaillez pas beaucoup, la preuve, encore une fois, aux Victoires de la musique classique. Ça vous a donné une visibilité supplémentaire, j'imagine. Quel bilan vous faites après ces deux ans ?
Je vois ça comme... je ne suis qu'un... Finalement, je n'ai pas été révélation, je n'ai été que nommé. Donc vraiment, je l'ai vu comme une belle aventure, l'occasion... Moi, je le vois vraiment, surtout, le souvenir, c'est d'avoir pu jouer à la Grange au Lac, à Évian, avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, qui est un orchestre magnifique. D'avoir fait le final de l'Empereur de Beethoven, ça, c'est vraiment le grand souvenir. Après, tout ce qui était... l'aspect presque concours, je l'ai pas vraiment vécu comme ça. J'ai pris ça comme des concerts. Ce qui m'a vraiment plu, c'est à l'époque, c'était de voir que non, là où ça a pas tant touché les professionnels que ça, c'est surtout mon entourage et un entourage qui est peut-être moins mélomane, moins habitué à entendre du classique. Je pense par exemple à mon voisin de l'époque qui m'a entendu et qui a beaucoup aimé. Et du coup, j'ai eu beaucoup de remarques assez touchantes de la part de mes voisins, d'un entourage plus éloigné, qui était fier pour moi, et j'ai trouvé ça très touchant.
Vous parliez de Beethoven à l'instant et de son concerto numéro 5, L'Empereur. Beethoven sera également au programme de vos concerts à la Folle Journée de Nantes.
Tout à fait.
Vous y serez les 1er et le 2 février.
Voilà.
Un événement France Musique, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Vous serez également le 19 février, encore un événement France Musique piano à Lyon. Salle Molière, Enesco, Prokofiev et Beethoven. Alors les 32 sonates, on en parlait tout à l'heure. Là, votre enregistrement concerne les variations. Les 32 sonates, vous les donnerez avec plusieurs autres artistes à l'auditorium de Radio France. Vous jouerez lesquels, vous ?
Alors, je vais
le 22 mars prochain.
Alors, je vais jouer l'opus 7 en mi bémol majeur, une sonate extraordinaire de Jeunesse, aux dimensions des sonates de la fin. Puis, je jouerai la Claire de Lune. La Claire de Lune.
L'opus 27.
Exactement.
Est-ce qu'on sent, comme dans les variations, justement, ces différentes périodes dans la vie de Beethoven, en tout cas pour les sonates, ces fameuses 32 sonates écrites entre 1795 et 1822, d'abord l'influence des classiques, Mozart, Haydn, et puis après une écriture de plus en plus audacieuse, et puis alors après, beaucoup de difficultés, beaucoup de romantisme dans les dernières. C'est pareil pour les variations ?
Oui, tout à fait. Alors peut-être, j'irai pas jusqu'à dire qu'on voit le Beethoven tardif, puisque les variations de Diabelli sont beaucoup beaucoup plus tardives que le dernier opus que j'ai enregistré, qui est l'opus 35. Mais déjà dans les dimensions, et j'allais dire dans les ambitions musicales et presque humanistes de Beethoven dans cette œuvre, on voit déjà le matériau de la fin. Je pense par exemple à l'avant-dernière variation.
Vous parlez des variations héroïques.
Oui, pardon,
de l'opus 35.
Oui, l'avant-dernière variation des opus 35, qui est une variation lente aux dimensions vraiment immenses et qui appelle déjà le mouvement lent de l'opus 111 par exemple, ou certains de l'opus 110.
Nous vous écoutons justement dans les variations Eroica Selim Mazari sur France Musique. Mazzari au piano dans le thème et les trois premières variations, des variations Eroica, opus 35 de Beethoven, une œuvre composée en 1802, mais quel génie.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours frappé. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me demandais toujours finalement à quoi on peut identifier un génie. Pourquoi on dit, pourquoi Beethoven n'est pas un autre? Parfois on peut, c'est, chez certains courants littéraires, on fait des choix. Et lorsque justement on regarde, lorsqu'on joue, lorsque j'ai travaillé ces variations-là, voilà, évidemment, la première question, c'est de dire, mais finalement, en quoi c'est génial, Beethoven? Bah, c'est génial parce que, mélodiquement, c'est génial. Il utilise un thème aussi bête que ça, pardon, mais c'est un thème magnifique. Mais...
un thème emprunté à son propre ballet, les créateurs de Prométhée.
C'est ça, qu'il utilise aussi dans le final de la symphonie héroïque, qu'il utilise également, j'ai découvert ça d'ailleurs cette année en écoutant le concert du Nouvel An, dans ses 12 contredanses pour orchestre. Donc c'est un thème... c'est un thème assez simple, hein, tonique, dominante, c'est un thème presque bateau si j'ose dire. Pourtant ce thème est absolument génial. La manière dont il le fait évoluer est absolument extraordinaire.
Mais en même temps, il y a une vraie unicité de tonalité, de métrique. Il y a quelque chose quand même qui est assez, assez entier.
Oui, c'est ça qui est d'ailleurs difficile à l'enregistrement. Préserver l'unité, préserver la vision, pour citer Neuhaus, Heinrich Neuhaus, qui parlait de l'aigle qui survole un paysage. C'est ça qu'on se doit d'avoir en tant qu'interprète, arriver justement à maintenir l'auditeur dans une tension narrative, dans une tension dramatique, pour essayer justement de ne pas se, pas en fait pas qu'il se retrouve à se dire bon c'est quand on en est à combien de variations ou c'est quand la fin, parce que non, mais de toute façon c'est pas possible avec Beethoven, c'est pas possible, et particulièrement avec ces variations là, les opus 34 aussi, impossible de lâcher, de faire autre chose quand on entend.
Selim Mazzari, un petit conseil pour les jeunes pianistes, ou pas jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent. Quel conseil vous donneriez ce matin-là, 6 janvier?
Conseil global? Moi je pense qu'il faut faire 40 milliards de choses en plus du piano. Il faut lire, il faut voir des choses, mais voir des films, il faut se divertir aussi, parce que, je veux dire, on peut regarder, évidemment, il faut lire L'Art du Piano Neuhaus, mais on a le droit de regarder Kung Fu Panda. Je veux dire, il faut faire plein de choses, il faut se nourrir, et, quand on aime un compositeur, il ne faut pas regarder que son œuvre au piano. Il faut regarder toute son œuvre à travers la voix, à travers l'orchestre, à travers la musique de chambre.
Merci beaucoup, Selim Mazzari, pour ces quelques conseils que l'on prend aussi pour la vie en général d'ailleurs. Vous aviez participé, pour se quitter, nous allons vous écouter dans un tout autre répertoire, Scarlatti. Vous aviez participé à la soirée Scarlatti Night Fever le 26 octobre dernier. Vous avez joué avec le claveciniste Frédéric Haas. Et puis déjà Scarlatti que vous aviez interprété lors du concert des révélations des victoires de la musique classique il y a 2 ans, en 2018. La magnifique sonate en si mineur, Kirkpatrick 87. Nous vous écoutons. Selim Mazzari, et je vous souhaite une très belle journée.
Merci, vous également.
Thank you.
Un extrait de la sonate en si mineur, Kirkpatrick 87 de Domenico Scarlatti, sous les doigts de mon invité ce matin, Selim Mazari. Selim Mazari qui sera en concert le 16 janvier prochain à la Fondation Vuitton. Et que nous retrouverons au disque très prochainement sur son disque consacré aux variations Beethoven.
À réécouter sur francemusique.fr.